Radio Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalula-Mbombo. Au sommaire, reprise timide en fin d'après-midi des activités dans la partie nord de la ville de Goma, ce après une vive tension observée ce matin dans cette partie de la ville à la suite du meurtre de deux personnes ainsi que des blessés par balles par des hommes armés en tenue militaire dans la nuit de dimanche à ce lundi. Vote en cours des membres du bureau définitif du Sénat au Palais du Peuple. Dans quelques heures, les nouveaux dirigeants définitifs de la Chambre haute du Parlement seront nécessairement connus. Jacques Odia Moussoungaï, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, est l'invité de ce journal. Il revient sur la publication des résultats de l'examen d'État édition 2024. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, cette information, le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, est arrivé ce lundi à Kinshasa pour une visite de travail avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leurs proches collaborateurs. Les échanges ont porté sur les processus de Luanda et les cessez-le-feu décidés par la RDC et les Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à assurer le respect du nouvel accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet dernier à Luanda entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. En vigueur depuis le 4 août, le nouveau cessez-le-feu dans l'est de la RDC a fait l'objet d'une intense activité diplomatique impliquant l'Angola, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la RDC et le Rwanda. Le week-end dernier, le président angolais était à Kigali où il a discuté de la question avec son homologue rwandais en marge de la cérémonie d'investiture de ce dernier pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Rwanda. Avant de quitter Kigali, le président Lawrence Howe, en sa qualité de médiateur de l'Union africaine dans ce conflit, s'est entretenu par téléphone avec le président Tshisekedi et Kagame au sujet de la consolidation du processus de paix en RDC. Rappelons que la RDC accuse le Rwanda de soutenir activement la rébellion du M23 dans les conflits qui fait rage dans l'est de la RDC, allégation maintes fois réfutée par les autorités rwandaises.
Au Nord Kivu, reprise timide en fin d'après-midi des activités dans la partie nord de la ville de Goma. Ce après les manifestations qui ont émaillé dans la matinée cette partie de la ville. Pour l'instant, l'épicentre des manifestations est quadrillé par les forces de défense et de sécurité déployées dans la zone. La société civile avance un bilan d'un véhicule incendié et de plusieurs arrestations parmi les manifestants. Les récits de Gabriel Wamenya.
La situation est restée tendue jusqu'en fin d'après-midi dans les villages de Rukoko en territoire de Nyiragongo et dans les quartiers voisins de Majengo et Bouéné. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés par les forces de défense venues en appui aux forces de sécurité débordées par les événements de ce matin. Jusqu'au moment du récit, la zone de manifestation reste quadrillée par les militaires lourdement armés. La société civile de Nyiragongo affirme que, bien qu'on observe timidement la circulation des personnes les plus courageuses et l'ouverture de la chaussée, les stigmates des violences restent encore perceptibles et la plupart des habitants restent encore terrés chez eux. Pour l'instant, des investigations sont en cours pour identifier et rechercher les auteurs de la fusillade présumée. Rappelons que beaucoup d'hommes en armes, dont les militaires, les policiers ainsi que d'autres hommes portant la tenue militaire, circulent en toute quiétude dans cette partie du nord de la ville et dans les territoires de Nyiragongo. Là, ils commettent de nombreuses exactions et des violations graves des droits humains, dont des meurtres, assassinats, extorsion des biens et autres abus, affirme la société civile de Nyiragongo. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Pendant ce temps, le territoire de Beni, toujours en Nord Kivu, a une fois de plus été le théâtre des violences meurtrières. Les bilans de la double attaque des villages de Baeti et Mabuo dans la localité de Mamove s'est alourdi, atteignant désormais 18 civils tués contre 10 initialement recensés. Ces attaques survenues samedi s'inscrivent dans une vague de violences qui, selon la société civile locale, a coûté la vie à plus de 150 personnes en un mois avec des destructions matérielles considérables. La société civile exprime sa profonde préoccupation et exhorte l'armée et les gouvernements à prendre leurs responsabilités. André Kitenge pour les détails.
La double attaque est intervenue samedi dans le groupement de Batangimbao. D'après Kinos Katuo, président de la société civile de Mamové, 18 personnes ont perdu la vie et plusieurs maisons ont été incendiées. Le nombre de civils tués dans la région au cours du dernier mois s'élève désormais à plus de 150 selon la société civile. Kinos Katuo déplore également l'absence de réponse de la part de l'armée face à cette escalade de la violence.
Le bilan est revu à la hausse de 10 à 18 personnes tuées, 4 maisons incendiées, 2 auto-incendiés et 14 personnes portées disparues. Ça fait au moins un mois qu'on vient d'enregistrer plus de 150 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées, plusieurs personnes portées disparues. Ça, la réaction de l'armée. Nous avons constaté que nous sommes sacrifiés par notre propre armée et par notre gouvernement responsable.
Jusqu'à ce matin, l'armée ne s'était pas encore exprimée sur cette attaque. Bien que des troupes de FRDC aient été envoyées sur place pour traquer les assaillants, le président de la société civile de Mamové appelle les autorités militaires à renforcer davantage la présence de ses soldats. Selon lui, les rebelles des ADF circulent librement entre les villages de Beoumanyama et Mabuo dans le secteur de Benimbao. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En province du Tanganyika, signalons également la recrudescence du banditisme dans les territoires des Moba. D'après la société civile locale, 8 corps sans vie ont été ramassés en l'espace d'un mois à Moba et ses environs. Le dernier cas en date est celui d'un élément de la force navale et plusieurs cas de cambriolage sont signalés. Les points avec Paulin Munanga.
Ces corps sans vie sont ramassés dans différents quartiers de Moba, comme Moba Port, Kirungu, Kakera et dans la chefferie de Kansabala, indique la société civile de Moba. Et le dernier cas en date est celui d'un élément de la force navale. Son corps a été trouvé dans la matinée de vendredi dernier sur son lieu de travail. D'après l'administrateur du territoire de Moba, la victime était garde du corps d'un officier de FRDC. L'autorité du territoire ajoute que la victime avait des traces de blessures sur son corps. Victor Kanfoy annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de sa mort. De son côté, la société civile signale que plusieurs maisons d'habitation sont visitées par des malfrats. Dans la nuit du 9 au 10 août dernier, des bandits portant des armes blanches ont cambriolé plusieurs maisons au quartier Moba Port et Kirungu. Face à cette situation, le coordonnateur de la société civile de Moba, Léon Tabou, demande aux autorités locales de sécuriser la population et ses biens. L'administrateur du territoire de Moba annonce que 3 présumés bandits sont aux arrêts depuis samedi. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
La plénière portant élection et installation des membres du bureau définitif du Sénat est en cours depuis 12h30 au Palais du Peuple. Après les votes, le Sénat débute bientôt avec les dépouillements et les comptages des voix de chaque candidat. Jonas Munkamba se discute la présidence du Sénat avec Jean-Michel Samaloukonde, qui semble être le favori après sa désignation contre les candidats de l'Union Sacrée et avec les désistements et de Idrissa Afani, candidat de l'UDPS. Michel Kifi Findangoy.
Prenant la parole au perchoir du Sénat pour l'audition de son discours de campagne, le candidat d'élu d'EPES, Idrissa Afani, annonce son désistement en faveur de la candidature de Samaloukonde.
Devant cette grande décision, je ne pouvais que m'effacer en faveur de l'honorable Samaloukonde Kienge.
Pour sa part, Jonas Munkamba, 93 ans, met en avant-plan sa large expérience dans les affaires publiques.
Je vais partager avec vous ce qui me tient à cœur pour conduire ensemble, et cela la République. C'est ici la question de la réconciliation nationale.
Parti favori pour cette élection, Jean-Michel Samaloukonde se montre rassurant.
Je voudrais vous rassurer que nous ferons tout notre possible pour que votre voix soit considérée. Cette ambition, je la base sur mon expérience. J'aimerais m'appuyer sur le fait que dans un passé très proche, j'ai occupé Premier ministre de notre pays. Je mets à votre service ces acquis dans notre diversité et notre pluralité. Nous nous acceptons et nous œuvrons ensemble pour le bien de nos populations.
Après différentes auditions des candidats, les sénateurs départageront les uns et les autres par un vote à bulletin secret.
À Kinshasa, l'opération coup de poing visant l'assainissement a été lancée la nuit de samedi à ce dimanche. Les gouverneurs des provinces se donnent entre un mois et demi pour une première évaluation sur terrain. Daniel Bumba appelle la population à s'approprier cette action de salubrité et à la perpétuer dans tous les coins de Kinshasa. À l'occasion, le gouverneur a aussi conscientisé des agents chargés de ce travail. Autre nouvelle, le président de l'Assemblée nationale plaide la cause de chef coutumier de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe reconnaît que le pouvoir coutumier est gravement fragilisé par la boulimie des acteurs politiques du pays. Ainsi, il s'engage à faire voter des lois à l'Assemblée nationale pouvant contribuer au rétablissement des pouvoirs traditionnels en RDC. Propos recueillis par Jean Kassami.
On ne peut pas prétendre gérer la cité sans la complicité des chefs traditionnels. C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans le souci d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. Ici, nous avons un réel pouvoir coutumier que nous semblons fouler aux pieds avec des lois, bien sûr, que nous allons corriger au niveau de l'Assemblée nationale pour établir le pouvoir traditionnel. Nous avons connu plus de 145 attaques venant du Rwanda, repoussées par nos vaillants ancêtres et rois de l'époque, Mafondwe, 00 et les autres. La République démocratique du Congo sait très bien que toutes les hostilités qui ont endeuillé ce pays commencent par la partie est. Fizi, Baraka, Uvira, Bukavu, Goma, Ituri. C'est pas pour rien. C'est parce que ici nous avons des richesses innombrables.
Cette déclaration du président de l'Assemblée nationale est tirée de son mot des circonstances prononcé à l'occasion des obsèques du Mwami Désiré Kabaré, Rouge Mani Zideu, à Chirunga, dans les territoires des Kabaré au sud Kivu, le vendredi 9 août 2024. Nous venons de l'apprendre, 110 maisons incendiées la semaine dernière et 11 personnes blessées, dont plusieurs graves, dans le nord Ubangi. C'est la conséquence d'un conflit foncier entre les villages Bodemepande et Bokenge dans les territoires de Bosobolo. Les forces de l'ordre se sont interposées entre les deux communautés, mais la situation humanitaire reste précaire, notamment pour les familles qui ont tout perdu dans l'incendie et passent la nuit à la belle étoile. Voilà pourquoi les vice-présidents de l'Assemblée provinciale et députés provincial élu de Bosobolo monte au créneau pour dénoncer la justice populaire. Aussi, Charles Tonzale lance-t-il un SOS pour une assistance aux victimes. Il a été joint par Paul-Richard Malengela.
Les deux localités en question qui ont des conflits, c'est la localité de Bodemé Pandé dans le groupement de Bodemé et le village Bokenge dans le groupement de Mouy. Donc c'est un conflit qui date depuis longtemps. La terre avait été sur les lieux pour trouver une solution définitive. Mais à notre grande surprise, le conflit a surgi. Selon le bilan actuel, il y a 110 maisons incendiées, dont 69 dans le village Bokenge et 41 dans le village Bodemepande. Hormis l'incendie, il y a aussi 11 blessés, dont 6 à Bokenge et 5 blessés dans le village Bodeme. Actuellement, il y a du calme précaire parce qu'il y a la présence des éléments de FARDC et la police sont avec l'administration du territoire et les chefs du secteur. Donc, nous ne sommes pas contents parce que la justice populaire met à mal la population de notre contrée. Comme vous savez, il y a 110 maisons qui sont brûlées, raison pour laquelle nous sommes en train de lancer maintenant le SOS à toute personne de bonne volonté vraiment d'assister vraiment notre population.
Toute autre nouvelle, il n'est plus question pour les enseignants de s'absenter en classe pendant plusieurs semaines pour aller toucher leur salaire. Une cartographie des enseignants des écoles qui sont éloignées des agences bancaires sera présentée dans les banques payeuses pour qu'elles s'approchent elles-mêmes des enseignants. Ceci est l'une des dispositions arrêtées à l'atelier d'évaluation de la feuille de route de la Direction nationale du contrôle et de la paie des enseignants du Congo. Cet atelier s'est tenu dans la province éducationnelle du Congo central 2, en territoire d'Embanzangungu, dans la province du Congo central. Il a regroupé les cadres et les 6 chefs d'antenne du service des payes des enseignants. Ces cadres ont permis d'analyser les objectifs atteints ou non assignés au début de l'année et a donné des orientations pour perfectionner les travaux sur le terrain. La directrice nationale du contrôle des payes des enseignants, Nelly Bompongo, explique la mise en œuvre de cette nouvelle disposition de la paye des enseignants. Elle est dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Nous avons pris les dispositions pour que ce genre de cas ne se répète plus. Où les enseignants abandonnent les élèves, ils vont plus de 2-3 semaines, voire même un mois, aller dans les agences de paye pour chercher des salaires. Nous avons mis en place une cartographie pour les écoles à accès difficile ou les écoles qui sont lointaines des agences bancaires. Alors on a mis les stratégies pour que les opérateurs concernés puissent prendre des dispositions pour que ces enseignants n'effectuent plus de distance pour arriver à leur paye. Alors, nous avons fait cette cartographie que nous allons présenter auprès de la hiérarchie qui est la direction du suivi paye dans notre direction nationale. Et nous avons aussi pris des dispositions pour voir les responsables de ces banques-là pour déjà donner des ultimatums. Nous avons aussi des microfinances qui arrivent un peu partout. S'ils s'amendent pas, en tout cas, nous allons demander la délocalisation des effectifs dans ces banques-là.
Actualité internationale.
En Guinée, le projet de constitution a été rendu public dans la nuit de dimanche 11 août à lundi 12 août par le Conseil national de la transition. Cela devrait mettre un terme à la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. La nouvelle loi fondamentale doit être votée avant la fin de l'année, avant l'organisation d'élections. Elle propose un système bicaméral et une limitation stricte à 2 mandats présidentiels.
L'invité.
Jacques Odiamusungai, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, est l'invité de ce journal. Avec lui, nous parlons de la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2024. Cette publication se poursuit sans désemparer à travers tout le pays. Pour Jacques Odiamusungai, toutes les batteries sont mises en marche pour améliorer l'organisation de cette épreuve certificative nationale. Il reconnaît cependant qu'il y a encore trop de failles et que le chemin reste encore long pour tout parfaire. Jacques Odiamusungai s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur l'inspecteur général, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La publication de l'examen d'État se poursuit. Si on peut faire un bilan, quels ont été les points forts et les points faibles qu'il faut peut-être améliorer pour cette année?
Je crois que ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre la fin de la publication. Mais à mi-parcours,
À mi-parcours,
oui, c'est possible de vous dire qu'on avance tant bien que mal. Mais comme les auditeurs vous l'ont dit, ils sont un petit peu satisfaits par rapport aux années antérieures. Je m'en félicite, mais je ne peux pas rester à ce niveau-là de recevoir des félicitations parce que ça s'est amélioré. Il faut aller au-delà. Il y a encore beaucoup de failles. Il faudrait colmater toutes ces brèches-là et aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire. Pour le moment, ça va encore. Nous évitons ce que les gens ont appelé les années antérieures, ou l'année passée particulièrement, deuxième publication, deuxième session. Beaucoup de qualificatifs, beaucoup de dénominations.
Donc, j'espère que cette fois-ci, ça n'aura pas lieu.
Nous sommes en train de nous efforcer pour ne pas en parler, pour mettre vraiment cela dans la poubelle de l'histoire. Et voilà.
Ok, merci. Monsieur l'inspecteur, chaque année, on a l'habitude d'entendre la grogne des correcteurs, mais cette fois-ci, on n'a pas entendu parler de ça. Est-ce que le problème est résolu cette année?
Et pas entièrement, mais il y a déjà un effort. Il faut remercier le gouvernement de la République qui s'est impliqué. On paye déjà les intervenants, tenant suspect, hors session, on y va. Mais il y a encore des petits soucis, mais qui d'ici là seront complètement...
Des soucis qui ne sont pas majeurs, qui ne peuvent pas...
On y va.
Porter atteinte
à quelqu'un qui attend ses 200 francs, mais ouais. Ça fait un mois, deux mois, ça ne vient pas. Ça fait ce que vous appelez la grogne, cela est vrai. Mais l'effort est là et il y a accalmie. Je n'ai pas senti, comme par le passé, cette volonté de bloquer les choses, bloquer la machine. Ça va jusque là. Mais il y a des années qui ne sont pas encore payées, antérieures, 2015, 2017, 2020, ainsi de suite. On continue à lutter, mais je crois que ça va se résoudre. Ce côté-là, ça va.
Est-ce que l'examen d'État a aussi eu lieu dans les zones sous contrôle de la rébellion?
Oui, il faut
comment
le connaître.
Comment ça s'est passé?
Ah ben, vous les avez appelés comment?
Les rebelles M23 okay. Ou autres.
Les épreuves ont eu lieu dans tous ces coins-là. Mais j'ai rappelé, Nord Kivu, il y a un coin où il y avait bruit de bottes. Les élèves se sont dispersés, c'était le dernier jour des épreuves. Ils n'ont pas pu attendre et l'épreuve n'a pas eu lieu ce jour-là dans ce centre-là. Mais en général, ça s'est bien passé. presque dans l'ensemble du pays. Mais il ne faut pas parler des cas isolés. Vous pouvez trouver 3-4 candidats qui ne se présentent pas dans la salle d'examen pour une raison ou une autre, ça c'est autre chose. Mais de façon générale, tout un centre, toute une province, eh bien non.
Justement, je voulais savoir, il y a eu des enfants qui n'ont pas pu présenter l'examen d'État pour diverses raisons, soit l'insécurité, soit manque de moyens. Quel est le sort de ces enfants-là?
Mais le sort est déterminé par le jury de délibération. Et que les problèmes ont été posés parce que nous avons des rapports de tous ces centres et des passations. Et les jurys ont pris une décision là-dessus. Il nous appartiendra de vous dévoiler ce secret-là, le dernier jour de publication, pas aujourd'hui, parce qu'on dit jury des délibérations, on ne publie pas de cette manière-là. Mais les dispositions sont prises à l'avantage du candidat. Parce que là, ce n'est pas lui le responsable de son absence dans la salle. Mais lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'un enfant fuit lui-même pour une raison ou une autre, à ce moment-là, il est écope zéro. C'est fini. Mais pour ces coins-là, on a pris des dispositions. Dans les années antérieures, on organisait des sessions spéciales pour des cas pareils. Comme c'est un petit coin, et quelques candidats, vous imaginez, une centaine, si pas deux bonnes centaines, sur les 900 millions de candidats, vous voyez qu'organiser une session spéciale, ce n'est pas facile. Et puis, ce n'est pas non plus à l'avantage de ces enfants qui passent leurs épreuves sous stress. Imaginez-vous, il y en a qui se sont déplacés sur 100 km et vous leur demandez de revenir aujourd'hui pour une autre session. Je crois que c'est les traumatiser davantage. Mais nous prenons des dispositions réglementaires, pédagogiques. Vous avez été élève. Si vous n'avez pas participé à un examen tel jour, donc qu'est-ce qu'on fait de vous? Ce n'est pas le moment d'en parler. Mais nous disons, dans l'ensemble, les mesures ont été prises à l'avantage des candidats. Des candidats qui se sont bien comportés aussi. C'est-à-dire qui ont répondu des questions comme il se doit. Ne dites pas, parce que je suis de ce coin-là, moi, je n'ai pas répondu parce qu'hier, je n'ai pas mangé et alors on me donne 60%. Alors là, non, ça c'est autre chose.
Jacques Odiamusungai, inspecteur général de l'éducation et nouvelle citoyenneté, merci beaucoup.
Merci, merci.
C'est par ici que nous bouclons cette session d'actualité de ce soir sur Radio Kapi, mise en onde par Debs Vita, supervisée et coordonnée par Peleki Pelamondo et Jude Bilan Dankumar, Patience Ngalulambombo à la présentation. Merci à vous tous de nous avoir suivis.